Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 10 février 2020. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran a testé avec succès un engin de missile à propergol solide capable de délivrer une poussée de 66 tonnes pouvant être utilisée dans les fusées porte-satellites. Un drone espion de la coalition saoudienne a été abattu par les forces armées yéménites à Araz et l'Ouganda doit verser 325 millions USD à la RDC pour réparation et dommages liés à son agression. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a testé avec succès un engin de missile à propergol solide capable de délivrer une poussée de 66 tonnes pouvant être utilisée dans les fusées porte-satellites, a annoncé le commandant en chef de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ali Hajizadeh. Le général Hajizadeh a jeté une nouvelle pavée dans la mare en promettant un missile stratégique nouveau. Or, cet engin que le général a affirmé avoir été conçu depuis un certain temps, mais que l'Iran veut exposer rien que pour percer ce mystère qui entoure ces missiles balistiques aussi précis que des missiles croisières, au contraire de leurs homologues étrangers, vient d'être porté au grand jour. Le missile stratégique à longue portée dit Reiba Shekan est un missile de troisième génération. Le missile utilise du combustible solide et dans la phase d'atterrissage, il a l'ogive manœuvrable, capable de traverser le bouclier antimissile. Sa conception optimale a permis de réduire son poids d'un tiers par rapport à des échantillons similaires Sejil, Radref, et de réduire d'un sixième son temps de préparation et de tir. La vitesse est extraordinaire pour atteindre des cibles dans un rayon de 1450 km et parmi d'autres caractéristiques uniques de ce nouveau missile. Ce système entièrement iranien a été conçu et construit par les spécialistes assidus de l'armée de l'air du CGRI. Le général Hajizadeh a ajouté que le missile était construit depuis un certain temps et qui faisait actuellement partie de la capacité de combat du CGRI et des alliés. Dans des remarques pertinentes en janvier 2021, le général Hajizadeh avait souligné que l'Iran avait limité la portée de ses missiles à 2000 km sur la base de sa propre décision. Un drone espion de la coalition saoudienne a été abattu par les forces armées yéménites à Arras. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que la défense aérienne yéménite a abattu un drone espion de l'armée de l'air saoudienne dans la ville de Araz, dans la province de Raja. Il a ajouté que le drone de type CH-4 a été abattu par un missile solaire alors qu'il menait des opérations d'espionnage. Les affrontements entre les forces de Sanaa et les militaires et les mercenaires liés à la coalition saoudienne se poursuivent sur les frontières entre Adja, la province du nord-ouest du Yémen et l'Arabie saoudite. Les combattants de la résistance yéménite ont remporté d'importantes victoires. Alors que les affrontements se poursuivent dans les provinces de Shabba et de Marib, les combattants de l'axe nord-ouest yéménite dans la province de Sada et près de la frontière avec l'Arabie saoudite ont lancé de nouvelles opérations contre des éléments armés de la coalition saoudienne. Une source sur le terrain a évoqué les détails de l'opération et a déclaré: les forces de l'armée et de la résistance yéménite ont mené des attaques surprises depuis la montagne et les collines d'Al-Khawar contre les positions des mercenaires de l'Arabie saoudite. Des dizaines de mercenaires ont été tués et blessés lors de ces affrontements. Les forces armées yéménites ont complètement nettoyé environ 150 km² des régions occupées au cours de cette opération. Le Conseil central palestinien, PCC, a décidé mercredi 9 février de rompre l'engagement de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, envers tous les accords signés avec Israël. L'annonce a été faite à la fin des réunions de 3 jours du PCC qui se sont tenues dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie. Au vu du reniement permanent par Israël des accords signés, le PCC a décidé de mettre fin aux obligations de l'OLP et de l'autorité palestinienne au titre de l'ensemble des accords signés avec Israël, indique le communiqué, ajoutant que la détermination d'Israël à accélérer la confiscation des terres palestiniennes a également contribué à cette décision. La décision comprend également la suspension des différentes formes de coordination de la sécurité avec Israël et le rejet des projets de paix économique et des mesures de rétablissement de la confiance qu'Israël propose comme alternative à une paix permanente et juste. Ces dernières semaines ont été marquées par une forte augmentation de la violence des colons juifs contre les Palestiniens et les biens palestiniens en Cisjordanie, ainsi que par des attaques palestiniennes contre les forces israéliennes et les colons. Mardi, 3 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie. Les forces d'occupation israéliennes se sont emparées mercredi 9 février de terres appartenant aux Palestiniens dans le village de Kisan, à l'est de Bethléem en Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a fait savoir que les forces d'occupation avaient pris d'assaut le village et s'étaient emparées de plus de 30 000 mètres carrés de terre dans le but d'étendre une colonie établie dans la zone. Un haut responsable russe a accusé mercredi l'Occident d'avoir intensifié la pression politique sur Moscou en fournissant des armes et des munitions pour soutenir l'Ukraine. Des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fourni une aide militaire à l'Ukraine, notamment des missiles anti-chars et des lanceurs. D'autres, comme l'Allemagne, ont envoyé des casques, évitant une aide létale. Kiev s'est tourné vers les États-Unis avec une demande de déploiement de plusieurs bataillons de systèmes de défense antimissiles anti-balistiques américains TAD près de Kharkov, a déclaré lundi une source diplomatique à l'agence presse russe TASS. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré que tout ce qui se passait en termes de pompage de l'Ukraine avec des équipements, des munitions, du matériel militaire, y compris des armes létales, était une tentative d'exercer une pression politique supplémentaire sur la Russie, ainsi que probablement une pression technique militaire. S'exprimant sur les déclarations de certains pays occidentaux et des États-Unis autour du gazoduc, Ryabkov les a qualifiés de cirque politique, ajoutant que les pays européens sont indépendants dans la définition de leurs propres intérêts. Les États-Unis et leurs alliés ont depuis longtemps transformé Nord Stream 2 en instrument de pression sur Moscou. Nord Stream 2 est devenu depuis longtemps un instrument de pression sur Moscou entre les mains des États-Unis et d'autres acteurs en dehors des États-Unis, a-t-il déclaré. Cela reflète les fondamentaux de l'Europe, de l'OTAN et de l'Union européenne, où loin de toute autosuffisance et indépendance, il n'y a même aucune tentative d'évaluer leurs propres intérêts et de les peser correctement à long terme, a noté le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Les juges de la Cour internationale de justice ont décidé mercredi que l'Ouganda devait verser 325 millions de dollars de réparation à la République démocratique du Congo pour son rôle dans les conflits dans la province congolaise de l'Ituri, riche en ressources naturelles. L'Ouganda doit payer cette somme en 5 versements annuels de 65 millions de dollars à compter de septembre de cette année. le montant total des dommages intérêts est bien inférieur aux plus de 11 milliards de dollars que le Congo avait demandé, mais le tribunal a rejeté plusieurs demandes, notamment toutes les demandes de dommages macroéconomiques, estimant que les preuves étaient insuffisantes pour étayer les calculs du Congo. Ce différend de longue date a été porté pour la première fois devant la plus haute juridiction des Nations Unies en 1999. Après une longue procédure, la Cour a jugé en 2005 que l'Ouganda avait violé le droit international en occupant certaines parties de la province orientale du Congo avec ses propres troupes et en soutenant d'autres groupes armés pendant la guerre qui a fait rage de 1998 à 2003. Le tribunal a ordonné aux voisins africains de négocier des réparations, mais en 2015, le Congo est revenu devant le tribunal, affirmant que les discussions étaient au point mort. Mercredi 9 février, le tribunal a statué sur le montant final de la compensation. Les décisions de la Cour internationale des juges qui traitent des différends entre États sont définitives et sans appel. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La partie la plus secrète de l'arsenal du Hezbollah. Après les missiles de haute précision et la flotte de drones du Hezbollah, qui ont privé les sionistes de leur sommeil au cours des deux dernières décennies, la nouvelle équation de la résistance dans le domaine de la défense constitue désormais le nouveau cauchemar d'Israël. Dans ce contexte, un officier de l'armée de l'air israélienne a récemment comparé les capacités du Hezbollah en 2006 avec celles des années récentes, sans manquer de dire qu'il faut admettre que le Hezbollah n'est pas resté les bras croisés au cours de la dernière décennie, mais tout en étant équipé de missiles antiaériens avancés, il a défié la supériorité aérienne de l'armée de l'air israélienne. À vrai dire, le projet des missiles de haute précision du Hezbollah est la première et principale source d'inquiétude d'Israël dans la guerre à venir. Et cela empêche toute action militaire contre le Hezbollah. Car cette arme augmente la capacité de combat de la résistance libanaise au niveau d'une armée nationale et le Hezbollah bénéficiera de tous les avantages d'une telle force sans avoir besoin d'une force aérienne. Ces missiles peuvent cibler toutes les installations vitales et les centres de population civile du régime sioniste. Les milieux sionistes s'inquiètent du fait que le Hezbollah libanais envisage des positions en Palestine occupée et utilisera ses drones pour cibler ses positions en cas d'un éventuel conflit dans la prochaine phase, en plus des missiles de haute précision. À la lumière de récents rapports sur la capacité des drones de Hezbollah au Centre de recherche sur la sécurité intérieure d'Alma, le régime sioniste estime que la future confrontation avec le Hezbollah est inquiétante compte tenu de l'augmentation du nombre de drones utilisés par ce mouvement de résistance. En décembre 2021, le Centre de recherche Alma a publié un rapport indiquant que le Hezbollah essayait de renforcer sa flotte de drones et que le nombre de ces drones avait atteint 2000 jusqu'à présent, dont la plupart avaient été construits par le Hezbollah lui-même. En 2013, le Hezbollah n'avait que 200 drones. D'autre part, de hauts responsables des agences de sécurité israéliennes ont expliqué dans une interview au journal Haaretz que le Hezbollah surveille également les activités de l'armée israélienne à la frontière avec le Liban à travers ses drones et que ces drones seront l'une des plus importantes armes qui seront utilisées dans la prochaine guerre entre le Hezbollah et Israël. Mais la troisième station dont les sionistes ont parlé récemment comme une source de préoccupation est la défense aérienne du Hezbollah, qui a été largement couverte par les médias sionistes. C'est une question qui a également été mentionnée par le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, dans une interview accordée à Al-Alam. Dans une partie de cet entretien, Sayed Hassan Nasrallah a évoqué l'augmentation de la force militaire de la résistance à différents niveaux, dont les systèmes de défense aérienne, disant que cela empêchait l'armée israélienne de violer l'espace aérien libanais. Il y a quelques jours, dans un rapport intitulé « Doigt dans l'œil d'Israël », la branche des opérations de l'armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait acquis des systèmes qui perturbaient les activités de l'armée de l'air israélienne dans l'espace aérien libanais et visait à abattre tous les avions israéliens dans la guerre à venir. En effet, l'activation de la défense aérienne de la résistance libanaise a fait perdre la possibilité d'espionnage aérien aux sionistes et cela fait longtemps qu'aucun drone israélien n'a été repéré dans le ciel libanais. Disposant de telles capacités dans le domaine des missiles, des drones et de la défense aérienne, et compte tenu des conditions de sécurité sur le front nord des territoires occupés, il est clair que le Hezbollah sera en mesure d'imposer son pouvoir de dissuasion sur le terrain.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. 55 pays membres de l'Union africaine s'étaient réunis à Addis Abeba. Ils ont parlé beaucoup de sujets. Ils ont parlé de détention au Sahel, de ce qui se passe au Tigré en Éthiopie. Ils ont parlé en fait de divers coups d'État qui se produisent en fait dans le continent africain. Ils ont parlé de la menace terroriste, de la reprise des activités économiques post-Covid. Ils ont parlé en fait des sujets, des défis auxquels sont confrontés les pays membres de l'Union africaine. En fait, ils ont créé le consensus au sujet de beaucoup de questions, beaucoup de défis à relever, mais il y avait en fait un sujet, un débat qui était suspendu, si vous voulez, lors de cette réunion, le débat sur en fait la question d'accorder un statut d'observateur au régime israélien au sein de l'Union africaine. C'était une victoire de la diplomatie algérienne et également de la diplomatie sud-africaine, l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Et c'était vivement opposé à ce que soit accordé au régime israélien un statut d'observateur au sein de l'Union africaine. L'Iran a salué cette décision de l'Union africaine qui a suspendu, si vous voulez, le débat sur le statut d'observateur au régime israélien. Il y avait également cette prise de position de la part de la résistance libanaise. Sayed Hassan Nasrallah a salué la position de l'Algérie envers la cause palestinienne de l'Algérie qui s'est, je viens de le dire tout à l'heure, fortement opposée à ce que soit accordé à l'entité israélienne statut d'observateur, de membre observateur au sein de l'Union africaine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à votre plateau. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et bonjour à mon collègue, bien entendu, comme d'habitude.
Vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, ce n'est pas M. Bernard Cornu, c'est en fait M. Habib Tava, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui est avec nous pour cette émission par Skype depuis Paris. Monsieur Tava, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de me recevoir et je vous souhaite le meilleur.
Pareillement pour vous, Monsieur Tava. Monsieur Tava, comme première question, je viens de lancer le sujet. Quelle est la portée, l'importance de ce qui vient de se passer à la réunion de l'Union africaine à Addis Abeba, l'Union africaine, qui a suspendu le débat sur le statut d'observateur qui devrait être accordé au régime israélien.
Ben, je trouve que la force de la position algérienne associée à celle des Sud-Africains est assez impressionnante dans la mesure où, d'une part, Israël envoie beaucoup d'experts en Afrique qui sont censés aider à l'économie de divers pays africains et donc à des cartes pour s'imposer. Deuxièmement, il y a le fait que le front arabe, malheureusement, est désuni puisque le Maroc a reconnu Israël, l'Égypte reconnaît Israël, la situation est en suspens au Soudan, la Libye n'existe plus vraiment puisqu'elle est partagée entre plusieurs pouvoirs. Donc nous avons une situation où l'Algérie, finalement, du point de vue des Arabes en tout cas, s'est battue seule aux côtés de l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier la fameuse déclaration, quand il était vivant, du grand africain, sud-africain plus exactement, qui disait « Quand j'étais dans la lutte contre l'apartheid, on me qualifiait de terroriste et maintenant je suis devenu un résistant ». Donc les Algériens se sont inspirés de ces propos et ont tenu bon et ont réussi à bloquer une situation qui était quasiment, pour ne pas dire pratiquement impossible à régler. Donc les Israéliens ont été mis au pas dans cette situation et on peut espérer que ça pourra continuer.
Je vous en prie.
Oui.
Monsieur Tava, en fait, les Algériens se sont inspirés de ces propos et les Sud-Africains également se sont inspirés de cette lutte contre, l'apartheid, d'autant plus que Amnesty International a qualifié il y a quelques jours d'apartheid le régime israélien. Ça aussi, ça a compté sur la prise de position de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, M. Tava?
Oui, non, mais j'ai pensé à Mandela, je ne trouvais pas son nom, mais Mandela avait déclaré ce que je vous ai dit. Mandela a été considéré comme un terroriste et je suis devenu maintenant un résistant. Et il a qualifié la position des Palestiniens de comparable. Ils sont qualifiés par la presse internationale souvent de terroristes, alors qu'il s'agit de résistants. Et c'est ça qui a dominé dans la position de l'Afrique du Sud. Il y a quand même un pays qui compte, puisqu'il fait partie du BRICS, enfin de ce qui fut le BRICS, c'est-à-dire l'économie de l'Afrique du Sud est importante, et le poids politique de l'Afrique du Sud est important. Et je pense que sans l'Afrique du Sud, je ne crois pas que l'Algérie toute seule aurait pu tenir le coup, parce qu'une bonne partie des pays arabes ont malheureusement lâché le morceau. Donc c'est une victoire qui est, comme on dit, à l'arraché. Et on ne peut que féliciter la diplomatie algérienne pour cette prise de position. C'est très bien ce qu'a compris dans le long interview qu'a donné Hassan Nasrallah à l'Alam, la télévision iranienne en langue arabe.
Merci beaucoup. Luc Michel, venez d'entendre les explications de monsieur de Tava. En fait, il y avait plusieurs autres pays, Luc Michel, qui s'étaient joints à cette prise de position de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Et je crois que la Tunisie également avait en fait rejoint cette prise de position adoptée par Alger et Pretoria. Votre analyse, s'il vous plaît, Luc Michel.
Écoutez, il y avait un lobby pro-israélien principalement représenté par le Maroc, l'ancien président Tshisekedi de l'Union africaine, qui est un domestique des Américains. Il est membre du lobby qu'on appelle l'Atlantic Council, qui définit la politique américaine en Afrique. Le principal soutien, il y avait également le président Kagame. Ces gens qui étaient tout puissants au sein de la commission de l'Union africaine ont tenté de prendre les pays arabes non reconnaissants d'Israël, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie principalement, en otage. Le but, c'était d'imposer à l'Union africaine la reconnaissance d'Israël comme membre observateur et donc de prendre en otage toute l'Union africaine. l'Union africaine. Rappelons qu'Israël était bien entendu le principal soutien du régime de l'apartheid, du temps où le régime de l'apartheid dominait en Afrique du Sud. Cette union, ces régimes d'apartheid étaient principalement soutenus par Israël, mais aussi par l'OTAN et les États-Unis. Lorsqu'il y a eu en 2014 le sommet USA-African Leader, un ministre sud-africain s'est vu interdire l'entrée du territoire américain parce qu'il est en cause du temps de l'apartheid sur une liste des terroristes, comme l'a rappelé Monsieur Tawa. Bien entendu, ce complot israélien, il a été pris en défaut parce qu'il y a maintenant à la tête de l'Union africaine, bien entendu, le président sénégalais. Celui-ci est aujourd'hui l'un des principaux alliés de l'Iran en Afrique du Sud, en l'Union africaine. Et il a placé, évidemment, sur la liste des sujets interdits par ce sommet, la question de la reconnaissance d'Israël comme membre observateur. Bien entendu, cela est une décision fondamentale et qui ouvre des perspectives pour le nouveau président de l'Union africaine. C'est une défaite pour les Israéliens. Et bien entendu, cela aura des conséquences, bien entendu, géopolitiques pour toute l'Union africaine. La nouvelle présidence sénégalaise, elle implique une défaite pour les Israéliens. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire sud-africaine ou d'une victoire algérienne, mais cette victoire, elle a été soutenue au plus haut niveau par le nouveau président de l'Union africaine. C'est cela qu'il faut retenir de cette affaire.
Monsieur Tava, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Monsieur Michel, que cette décision aura des conséquences géopolitiques à l'échelle de l'Union africaine?
Oui, pour l'immédiat, parce que les Israéliens sont tenaces, il faut être réaliste. Je pense qu'ils continueront à essayer. Parce que, bon, pour Israël, le problème de l'Afrique est le suivant. Il y a d'abord une vision très vaste, stratégique, qui consiste à essayer d'avoir dans le dos des pays arabes et dans le dos de leurs adversaires, d'avoir des alliés. Et pour ce faire, ils utilisent certaines expertises, ils ont une pénétration économique dans certains pays d'Afrique. Ceci est dans le sens large par rapport à l'Afrique, mais dans le sens plus étroit, la côte de la mer Rouge est à moitié africaine, il ne faut pas l'oublier. Et donc, comme ils tiennent à maintenir ouverte la route qui les conduit vers, à partir du port d'Elat, qui les conduit vers l'océan Indien, ils tiennent à avoir des alliés en Afrique qui puissent protéger leur route commerciale. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans la guerre du Yémen, où ils ont occupé l'île de Périm, avec l'aide des Émiratis, ils ont occupé l'île de Socotra, dont ils veulent faire un paradis touristique, etc. Il y a donc des visées dans le sens large dans l'Afrique et dans le sens étroit sur la mer Rouge et tous les abords de la mer Rouge. Et de ce point de vue, l'Érythrée a un rôle qui est ambigu par rapport à Israël. C'est le cas aussi de d'autres pays. Il y a le fait que la Somalie, par exemple, le nord de la Somalie a un pouvoir particulier qui ne relève pas du pouvoir de Mogadiscio, etc. La vision israélienne est assez détaillée sur la région. Et c'est pour ça que je suis impressionné par ce résultat qui, je vous dirais, presque inespéré, et en tout cas certainement inattendu. Donc on peut souhaiter, comme vous le dites si bien, que la suite puisse se faire, que des organisations internationales comme Amnesty puissent intervenir effectivement dans ce sens, mais comme disent les anglo-saxons, wait and see.
Monsieur Michel, si j'ai bien suivi Monsieur Tava, le régime israélien va continuer, si vous voulez, à diviser, si vous voulez, les Africains, va poursuivre c'est des agissements, mais c'était, comme l'a dit M. Tavaille, une victoire importante. Vous l'avez dit également pour la diplomatie algérienne et la diplomatie sud-africaine. Pensez-vous que désormais l'Algérie, l'Afrique du Sud et autres pays, eux aussi, ils vont, si vous voulez, intensifier leurs agissements pour barrer la route, si vous voulez, à ces tentatives israéliennes à l'échelle du continent africain?
C'est un problème qui n'est pas terminé. D'une part, Macky Sall est maintenant le président de l'Union africaine. C'est le principal allié de l'Iran en Afrique. Macky Sall a réorienté géopolitiquement le Sénégal. Il n'est plus l'allié fidèle de l'Africom et de la France, et il participe aux grandes opérations géopolitiques de l'Iran en Afrique. Le corridor, notamment Téhéran, Caracas, Dakar, et ce qu'on appelle l'OPEP du gaz. D'autre part, la question qui se pose évidemment, c'est celle des Marocains dans l'Union africaine. Le Maroc a quitté l'OUA sur la question du Sahara espagnol et il est rentré au sein de l'Union africaine il y a quelques mois sur la question d'Israël. Qu'est-ce que c'est le Maroc? C'est le principal allié des Israéliens en Union africaine sur base de l'accord, des accords de Trump d'Abraham. C'est le principal allié d'Israël. C'est le principal adversaire de l'Algérie, mais c'est aussi le principal allié de l'OTAN, puisque le Maroc a été qualifié de principal allié de l'OTAN en Afrique, et c'est le principal adversaire de l'Algérie. Il y a quelques semaines, il y a eu le grand exercice, les manœuvres d'Africom, Lyon Africa Tayeur, elles ont été organisées avec 10 pays africains. Malheureusement, et l'allié principal qui est le Maroc. Il y a eu le déploiement de l'Africom aux frontières de l'Algérie, du Sahara espagnol et du Mali, le principal allié de l'Algérie et des Russes. Ce sont maintenant des colonels pro-russes qui dirigent le Mali. La question donc de l'Algérie et de l'opposition avec le Maroc, et la question d'Israël, elle n'est pas, hélas, terminée. Bien entendu, les manœuvres israéliennes vont continuer, et c'est une grande surprise, évidemment, cette position de Macky Sall, puisqu'elle a mis un coup d'arrêt au premier round, peut-on dire, de l'entrée de l'Union, l'entrée dans l'Union africaine d'Israël. C'est cela qu'il faut retenir. Bien entendu, il va falloir voir si Macky Sall va continuer cette position et va continuer à s'opposer à l'entrée des Israéliens comme observateurs dans l'Union africaine. Une position qui n'a aucune légitimité. Les Israéliens n'ont rien à faire dans l'Union africaine.
Mais les Israéliens n'ont rien à faire au sein de l'Union africaine, pour reprendre l'expression de Luc Michel. Habib Tava, en fait, Luc Michel vient de faire allusion, si vous voulez, au Maroc. Selon Luc Michel, Maroc est le principal allié des Israéliens et le principal d'Algérie. L'Algérie est bien compte ce qui se passe dans les relations entre le Maroc et Israël, d'autant plus qu'en fait, le Maroc a établi des cadres de cet accord d'Abraham avec le régime israélien. Le Maroc qui, selon Luc Michel l'a dit tout à l'heure, va en fait permettre au régime israélien de s'implanter davantage au sein du continent africain. Pensez-vous que c'est dans le cadre d'une telle logique que la diplomatie algérienne a mis tout dans la balance pour ne pas permettre, si vous voulez, aux Israéliens, aux Marocains et à certains autres pays, si vous voulez, de matérialiser un tel complot?
Je suis bien d'accord avec vous, et en particulier avec l'analyse de Luc Michel, qui a mis en avant beaucoup de paramètres qui sont très importants. Il faut quand même remettre aussi en perspective La position de la Tunisie, qui a été courageuse finalement, étant pris entre le marteau et l'enclume, ils ont fait leur choix. Je pense qu'il faut remercier le président tunisien pour ça. Mais si, quand on revient à la position du Maroc, il y a quelque chose que l'on oublie souvent, c'est que déjà, depuis une réunion des chefs d'état-major des pays arabes, avant 67, je pense qu'en 65, qui s'est passé à Casablanca, déjà Hassan II, qui était à l'époque le roi du Maroc, avait transmis aux Israéliens tous les enregistrements des chefs d'état-major arabes qui avaient dit « Nous ne sommes pas prêts à faire une guerre avec Israël » en 65. Donc quand la guerre a eu lieu en 67, les Israéliens partaient rassurés. Donc la collaboration israélo-marocaine, elle est très ancienne. Elle date déjà des rapports de M. Azoulay, qui était le trésorier du roi du Maroc, de la famille, de la fortune du roi du Maroc, et qui, donc lui-même étant juif marocain, mais avec des fortes relations avec Israël, a beaucoup contribué à ce rapprochement. Ce rapprochement est resté longtemps semi-secret, enfin c'est un secret polichinelle, mais aujourd'hui il est devenu ouvertement présent à tout le monde. Et ce qui prouve la difficulté qu'ont eu les diplomates algériens et les sud-africains avec eux pour retourner la barre et... Comme je vous dis, la situation est gagnée pour l'instant, elle n'est pas gagnée pour toujours. Croisons les doigts, comme on dit, et espérons que ça continuera sur la même ligne.
Luc Michel, Habib Tava vient de faire allusion à un point important, me semble-t-il. La position de la Tunisie, de Habib Tava, dit que voilà, cette position a été courageuse parce que finalement la Tunisie a fait son choix.
La question israélienne, évidemment, elle est fondamentale parce qu'elle clive l'Union africaine et les pays africains, non pas seulement sur la position d'Israël, mais sur la question de l'alliance occidentale. Le Maroc a toujours eu une position de sabotage du panafricanisme. Dès 1962, il y avait eu un groupe qu'on appelait le groupe de Monrovia, qui regroupait Nkrumah, qui avait regroupé Lumumba qu'on venait d'assassiner, mais surtout Nasser, et qui s'opposait à Israël. Le Maroc a défini ce qu'on appelle le groupe de Casablanca pour empêcher le groupe de Monrovia de définir le néo-panafricanisme. Ensuite, le Maroc s'est opposé à Kadhafi dans la constitution de l'Union africaine à partir de 1999. Et aujourd'hui, le Maroc représente aussi les intérêts américains contre les intérêts panafricanistes.
Luc Michel.
Il faut retenir la position marocaine, c'est une position pro-américaine visant à s'opposer au panafricanisme. Aujourd'hui, derrière le clivage entre le Maroc et l'Algérie, c'est une guerre par procuration qui oppose la Russie et qui oppose l'Afrique
au contrôle
de la Méditerranée occidentale.
Excusez-moi de vous couper la... Luc Michel, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ?
La position américaine en Méditerranée occidentale et la Russie, elle soutient et l'Algérie, ils soutiennent la position russe dans le même domaine. C'est donc une guerre par procuration fondamentale dans ce domaine.
Luc Michel, un mot, s'il vous plaît, sur la position tunisienne.
Les Tunisiens, évidemment, ils ont pris position contre Israël. Ils soutiennent les Iraniens, ils soutiennent les Algériens. Et avec ma grande surprise, ils soutiennent la Russie dans sa position, dans cette
Merci
guerre
beaucoup.
Pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Jusque-là, les Tunisiens issus, le régime tunisien issu du printemps arabe, ils soutenaient les Américains qui ont une base, les Américains ont une base clandestine en Tunisie contre l'Algérie et la Russie.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Habib Tava, analyste politique et spécialiste des questions internationales d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Amnesty International et l'apartheid d'Israël. Un coup d'éclair dans un ciel serein. Amnesty International dénonce l'apartheid dont sont victimes les Palestiniens. Tout d'abord, il faut noter le silence cathédral moins de 24 heures après le communiqué. C'est dire que les médias tétanisés ont fait le minimum syndical pour ne pas encourir les foudres des défenseurs d'Israël, Rubi et Orbi. Quant aux dirigeants palestiniens et aux pays arabes tétanisés, ils ne lèvent pas un cil. Pourtant, la cause de la dignité humaine est digne. Le peuple palestinien, dont le calvaire date depuis un siècle, en fait depuis la fameuse promesse de Lord Balfour en 1917. Nous allons expliquer brièvement comment le peuple palestinien a été ballotté et comment les fausses promesses de l'Occident et la lâcheté des pays arabes, à commencer par Camp David, ensuite Oslo et enfin le dernier acte d'un enterrement de première classe que sont les accords d'Abraham, ont fait oublier la cause palestinienne. Nous rapporterons ensuite le communiqué d'Amnesty International sur l'apartheid israélien, la réponse sans équivoque des autorités israéliennes qui sortent l'arme de destruction massive, à savoir l'accusation d'antisémitisme qui permettra à Israël d'imposer au monde sa politique. Malgré les protestations d'Israël, le fait est là. Il y a bien discrimination, grabbing des terres et deux poids deux mesures en ce qui concerne le droit. S'il est vrai qu'Israël fonctionne selon des règles démocratiques, cela est exclusivement consacré aux Juifs israéliens. Cela rappelle à s'y méprendre la situation du deuxième collège des Algériens pendant la nuit coloniale. Le mot « apartheid » n'était pas encore adopté, mais on parlait de frontières invisibles séparant les deux communautés avec en prime le code de l'indigénat et l'assurance d'appartenir à une race supérieure. Peut-être qu'il faille en appeler à la raison, à l'éducation, à la culture et graduellement intégrer par le savoir les Palestiniens dans un état laïque de tous les citoyens, quelles que soient leurs espérances religieuses, juives, musulmanes, chrétiennes et même sans religion. Qui se souvient de la Palestine originelle? Qui se souvient des dizaines de résolutions des Nations Unies bafouées par Israël, sûr de son impunité? Qui se souvient des calvaires du peuple palestinien, notamment celui de la prison à ciel ouvert qui est Gaza et régulièrement démolie, la dernière fois en mars 2021? La seule chose réelle concerne les colonies qui dépassent les 500 000 dans les territoires occupés. Pour la période récente, et comme l'écrit Gilbert Achkar, le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens est au point mort. Les accords d'Oslo sont morts-nés. Ces accords sont fondés sur une sorte d'espoir naïf de la part de Yasser Arafat qu'une dynamique pourrait s'enclencher et aboutir à leur objectif d'un État palestinien indépendant. Notamment, et en particulier le gel des colonies, sans parler de la question de Qods ou de la question des réfugiés. Mahmoud Abbas, malgré le fait qu'il soit allé plus loin que n'importe quel dirigeant palestinien dans la soumission aux désidérata israélo-américains, il n'a rien obtenu. L'esprit d'Oslo aurait supposé, durant les 5 ans d'autonomie, une évacuation militaire de l'immense majorité des territoires palestiniens occupés. Il n'en fut rien. En 2000, au moment des négociations sur le statut final, l'autorité palestinienne administrait des confettis éparpillés sur 40% de la Cisjordanie seulement et sur les 2/3 de la bande de Gaza. Plus près de nous, On se souvient que le 15 septembre 2020, lors d'une cérémonie historique à la Maison-Blanche, le premier ministre israélien avait officiellement signé des accords de paix spécifiques et bilatéraux avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, ce qu'il convient désormais d'appeler les accords Abraham. Les Émirats arabes unis et Bahreïn deviennent ainsi les troisième et quatrième pays arabes à normaliser leurs relations diplomatiques avec l'entité sioniste, suivant ainsi l'Égypte, avec les accords de Camp David en 1978 et la Jordanie en 1994. C'est une victoire diplomatique significative pour l'administration américaine qui négocie à la place d'Israël par Jared Kushner, le gendre du président Trump, ces accords. Ils ont par contre attisé la colère des Palestiniens. Les accords d'Abraham prennent ainsi à revers l'initiative de paix saoudienne de 2002, proposée par le roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, qui prévoyait une normalisation des relations des pays arabes avec Israël, mais seulement en échange d'un retrait complet des territoires conquis par l'armée israélienne en 1967, ainsi que la création d'un État palestinien sur les territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec Rots Est pour capitale. La seule chose de positive concerne Israël, car un an après, les accords d'Abraham lui ont permis de banaliser ses relations avec des pays arabes et la technique du rouleau compresseur qui a servi à banaliser la colonisation du territoire palestinien qui vit sur moins de 18% de la Palestine originelle aura raison des réticences hypocrites arabes vis-à-vis de la cause palestinienne. C'est le commerce qui prie. Daniel Fontaine en parle. L'ambassade d'Israël est ouverte dès janvier à Abu Dhabi. Les Émirats créent un fonds d'investissement doté de 10 milliards de dollars, ciblant des secteurs stratégiques en Israël. Les responsables palestiniens ont tout beau hurlé à la trahison. Leur cause a été mise au second plan par ses dirigeants. Cette étape laisse sur le bas-côté un grand perdant, les Palestiniens. Ils ont appris qu'ils ne doivent plus compter sur la solidarité arabe, pourtant si souvent proclamée. Leur revendication de création d'un État aux côtés d'Israël, officiellement soutenue par la communauté internationale, paraît plus lointaine que jamais. Le dernier cycle d'affrontements israélo-palestiniens, écrit Jean-Pierre Filiu du 10 au 21 mai, a coûté la vie à 270 vies palestiniens, dont 25 en Cisjordanie et à 12 Israéliens. Pour les 2 millions de femmes et d'hommes de la bande de Gaza, assiégés depuis 15 ans, c'est une nouvelle tragédie qui aggrave les traumatismes des guerres de 2008, 2009, 2012 et 2014. S'il y a un enfer sur Terre, c'est la vie des enfants de Gaza, a même déclaré le secrétaire général des Nations Unies. Une fois rappelée cette terrible réalité, force est de constater que la crise a accentué certains rapports de forces régionaux et internationaux entre gagnants et perdants. Ce qu'il y a de sûr est que la colonisation bat son plein. Plus de 500 000 colons se sont installés en Cisjordanie, rendant irréversible tout retour en arrière. Mieux encore, on annonce tous les jours de nouvelles implantations avec à la clé des expropriations et des démolitions. Ainsi l'expulsion d'une famille à Sheikh Jarrah, un nouveau crime de l'occupation israélienne. Le 19 janvier, la famille palestinienne Salehiya a été expulsée et sa maison rasée par la police israélienne dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Rots Est, symbole de la lutte contre la colonisation. Depuis mai 2021, Sheikh Jarrah est devenu le symbole de la lutte contre la colonisation israélienne à Rots Est. Pour Amnesty International, les Palestiniens sont victimes d'un apartheid. C'est par ces murmurements pesés qu'Amnesty International tente de réveiller la communauté internationale du coma dans lequel elle était plongée. Mais que l'on ne se fasse pas d'illusions. Pour les pays occidentaux, c'est un non-événement. Pour les pays arabes, c'est la gêne la plus totale. La cause palestinienne est devenue un malade sous perfusion permanente en dollars qui perpétue le statu quo, étant entendu que ces dollars sont loin de parvenir totalement aux Palestiniens, sous le joug permanent du double standard en termes de dignité. Amnesty International demande à la Cour pénale internationale, CPI, d'inclure la question de l'apartheid comme crime contre l'humanité dans son enquête ouverte en mars 2021 sur la situation dans les territoires palestiniens. Il est hors de doute, justement, que le rapport d'Amnesty, qui a mobilisé beaucoup d'énergie et de compétences, aura le même sort que celui justement de la CPI. Souvenons-nous, il y a un an, le 5 février 2021, la juridiction pénale internationale de la CPI s'était déclarée territorialement compétente pour enquêter sur de possibles crimes de guerre depuis 2014 en Cisjordanie, incluant Rotsest et à Gaza, les territoires palestiniens conquis par Israël en 1967. Pour les pays occidentaux, le rapport d'Amnesty est un non-événement. Le Conseil de sécurité est indifférent et surtout le silence coupable des pays arabes qui font assaut d'allégeance directe et indirecte à Israël, enterrant la cause juste palestinienne et croyant qu'avec quelques dollars qui n'atterrissent pas au bon endroit, on aura fait le minimum syndical.